Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous nous entendez bien ? Donc bonjour, bienvenue à ce débat qui est consacré à un sujet très ambitieux, puisqu'il s'agit de réinventer, rien moins que ça, la politique économique après la crise Covid. Alors on ne va pas chercher à savoir quelle sera la prochaine décision de la Banque Centrale Européenne, ou même celle de la Réserve Fédérale Américaine qui est attendue pour aujourd'hui. On va plutôt essayer de se projeter sur les nouveaux défis structurants qui attendent la politique économique, à la fois à la lumière de la crise Covid, qui, semble-t-il, a fait sauter certains tabous, on pense à la dette notamment, le quoi qu'il en coûte, on en reparlera, et puis on va envisager ces enjeux avec les défis structurants que sont le travail, la dette et le climat. Alors pour en parler, je vous présente par ordre alphabétique Daniel Cohen, qui est à ma droite directement, président de l'École d'économie de Paris. Bonjour et merci d'être parmi nous. Et puis François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France et membre du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Alors vous connaissez ou pas le principe. Dans un premier temps, nous allons avoir un temps d'échange ici. Et puis ensuite, vous aurez la parole à travers les questions que vous pouvez adresser sur la tablette au SMS qui s'affiche ou qui s'affichera à un moment sur les panneaux. Voilà. Alors peut-être, pour commencer, Daniel Cohen, je vais me tourner vers vous. On nous avait parlé d'une sortie de crise qui serait cataclysmique, du sang et des larmes, beaucoup de faillites et de chômage. On n'en est pas du tout là aujourd'hui, au contraire. Quel regard est-ce que vous portez sur cette sortie de crise inattendue ?
Alors, bonjour à tous. Très heureux de dialoguer avec le gouverneur. Le point numéro un, c'est que c'est inattendu dans votre question qui est le point le plus important. C'est-à-dire qu'en réalité, personne, il y a un an, ou très peu de gens, n'avait prévu qu'on aurait une sortie de crise économique. Je mets des guillemets pour ceux qui étaient là ce matin dans la discussion qu'on a eue sur la résilience. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses à mettre entre guillemets avant d'être certain qu'on est sorti de crise, et notamment si on examine aussi le moral des Français, leur état psychologique et moral. Mais fermons cette parenthèse et restons sur les données économiques pour l'instant. Personne ne prévoyait l'année dernière qu'on aurait une sortie de crise aussi vite. Les économistes avaient produit un concept qui était que nous vivions un choc d'offres keynésien, ce qui est pratiquement un oxymore, un choc d'offres parce que tout le monde comprenait qu'on ne pouvait plus produire comme d'habitude à cause des règles de distanciation sociale que le vaccin allait lever, mais qu'à l'époque le Covid nous imposait. En revanche, on craignait que ce choc d'offres ne dégénère en une crise beaucoup plus classique, keynésienne entre guillemets, c'est-à-dire une crise dans laquelle une spirale déflationniste se mettait en œuvre avec du sous-emploi, du chômage, un changement d'anticipation, une espèce de pessimisme économique comme on en avait connu beaucoup auparavant. En réalité, dès le troisième trimestre de l'année dernière, l'été 2020, on a vu que cette crise n'obéissait pas exactement au canon habituel. Puisque au troisième trimestre de l'année dernière, après une récession cumulée au premier et au deuxième trimestre de presque 20% de croissance trimestrielle perdue, on avait connu un rebond extraordinaire qui avait quasiment effacé à 2 ou 3 points près la récession du premier semestre. Et on avait vu que dès que le taux d'incidence baissait, les gens ressortaient, recommençaient à travailler, à profiter de la vie. Bref, en réalité, préparaient ce qui allait être le deuxième puis le troisième confinement. Mais du point de vue économique, tout s'est passé comme si ce que les économistes keynésiens redoutaient, à savoir ce qu'on appelle dans le langage de Keynes les esprits animaux des investisseurs. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'une crise entre en résonance, fait en sorte que je me méfie de la reprise, donc je n'embauche pas, je n'investis pas, les marchés financiers sont prudents parce que eux aussi sont terrorisés par le risque d'un rebond lent, et qui fait qu'en général les crises financières mettent beaucoup de temps à retrouver les niveaux de revenus ou d'emploi qu'on connaissait avant qu'elles ne se déclenchent. Aucune de ces choses ne s'est manifestée. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, les esprits animaux ici sont restés très concentrés sur un indicateur et un indicateur seulement, le taux d'incidence. Tout se passe comme si, en réalité, les problèmes de coordination des anticipations qui ont creux expliquent pourquoi les crises du passé étaient aussi violentes, ont été presque réglées mécaniquement par la nature de cette crise. Et c'est ce qui fait que dès que les taux d'incidence ont baissé, et a fortiori dès que dans les pays avancés, on a compris que les vaccins étaient au rendez-vous, les choses sont reparties beaucoup plus vite que prévu. Et on est passé d'une peur, d'une récession à l'ancienne, à quelque chose qui nous rappelle un peu les années 70, c'est-à-dire tout d'un coup une tension extrême sur la capacité de production, sur le marché de l'énergie en particulier, qui fait que cette reprise, a pris par surprise non pas simplement les gouvernements et les économistes, qui ne serait pas le plus grave, mais elle a pris aussi par surprise les producteurs d'énergie, tous ceux dont c'est le métier d'anticiper l'avenir et qui se sont retrouvés en quelque sorte débordés par cette reprise économique. Donc là, on est dans une situation tout à fait incroyable où les tensions inflationnistes, au fond, sont les choses qui, en quelque sorte, nous brident alors qu'on pensait que ce serait exactement le contraire. Donc voilà un peu la situation dans laquelle on est et voilà, en effet, cette surprise qu'il faut gérer, qu'il faut comprendre, qu'il faut interpréter d'une reprise, d'un rebond beaucoup plus rapide que prévu.
Merci beaucoup Daniel Cohen. François Villeroy de Gallo, à la Banque de France, comment on regarde cette situation incroyable dont parle Daniel Cohen ?
D'abord bonjour à tous, je voulais vous dire que j'étais très content de me retrouver aux Échos. Pardon de ma voix très enrhumée, je vous promets c'est un rhume et pas un Covid, j'ai testé. Je suis en gros d'accord avec ce que Daniel vient de dire et sa description. Il y a une autre façon de décrire ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un transfert de risques massif dans cette crise des acteurs privés, c'est-à-dire les entreprises et les ménages, vers les acteurs publics, les États et les banques centrales, qui ont joué un rôle d'assureur massif. Et c'est ça qu'il fallait faire. Il y a d'ailleurs un consensus assez rare des économistes là-dessus, et ça a été efficace. Comme vient de le dire Daniel, on a retrouvé en France le niveau d'activité pré-Covid depuis septembre dernier, c'est-à-dire en gros 9 mois plus tôt que ce qu'on imaginait initialement. Initialement, on parlait de mi-2022. Alors maintenant, l'économie a retrouvé la même taille globalement, le même poids qu'avant le Covid, et pourtant sa physiologie a changé. Il y a quelque chose qui a changé dans l'économie, et je vais peut-être essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dedans et des changements temporaires et qu'est-ce qu'il y a des changements durables. Parce que c'est probablement la question la plus difficile que nous ayons aujourd'hui. Je vais prendre mon risque de mettre un premier panier, si vous voulez, de changements probablement temporaires. Et je vais mettre là-dedans ce que Daniel Cohen vient de citer, ce à quoi on pense tous, c'est-à-dire les difficultés d'approvisionnement, la montée des prix de l'énergie et la poussée inflationniste. Ce sont des difficultés sérieuses. Nous sommes d'ailleurs vigilants face à cette difficulté. Mais nous pensons, au vu des reprises précédentes, que ces difficultés-là sont temporaires. Alors, je veux un tout petit peu préciser les choses là-dessus. Nous ne prétendons pas savoir, au mois près, la durée de la bosse inflationniste, ni savoir, à la décimale près, la hauteur de la bosse inflationniste. Mais nous sommes assurés de son caractère temporaire quand vous regardez toutes les reprises économiques de l'histoire, d'où deux conclusions importantes pour l'an prochain. La première, c'est que l'inflation en France, après avoir connu des mois de haut, devrait redescendre sous 2% d'ici la fin de l'an prochain. Alors, ça, c'est une perspective claire que je trace. Et la seconde, c'est que vu d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour la Banque Centrale Européenne de relever ses taux d'intérêt l'an prochain, en 2022, en cohérence avec ce qu'on appelle notre forward guidance sur les taux d'intérêt. Pour terminer là-dessus sur l'inflation, à moyen et long terme, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre notre objectif de 2% d'inflation. N'ayez aucun doute, je crois que c'est très important par rapport aux questions qui se posent aujourd'hui sur l'inflation, n'ayez aucun doute sur notre capacité et sur notre volonté d'ancrer l'inflation autour de 2% dans la durée. Voilà pour ce qui est, je crois, un changement important, mais temporaire. À l'autre bout du spectre, et je vais terminer par là, il y a des changements durables. Et je pense qu'on va en parler aussi. Il y a deux changements jumeaux. C'est la dette publique qui a beaucoup augmenté. Et c'est le climat qui était une nécessité avant Covid, mais qui a été encore accru par le Covid. L'articulation entre ces deux changements-là est assez subtile. Parce qu'ils se ressentent. C'est des changements à long terme et on a toujours tendance à repousser les choses. Et en même temps, il y a une forme de contradiction, c'est que la situation de nos finances publiques, malheureusement, nous rend plus difficile d'investir dans le climat. Mais je pense qu'on va en reparler. Et puis, je m'arrête. Il y a une catégorie intermédiaire dont je ne sais pas dire aujourd'hui si elle est temporaire ou durable, c'est le travail. Est-ce qu'il y a des changements durables du travail ou pas ? Bien sûr, il y a eu le télétravail, il y a eu le confinement, mais... Est-ce que nous allons voir en Europe ce mouvement qu'on qualifie aux États-Unis de « the great resignation », la grande démission ? Je n'en suis pas sûr, mais question ouverte pour notre discussion.
Merci François Villeroy de Gallo. Question ouverte pour Daniel Cohen. Parlons, donc, vous avez mentionné effectivement ces trois défis, travail, dette, climat. On peut commencer par le travail. Alors Daniel Cohen, en France, on se retrouve avec finalement un chômage qui est à un plus bas. Alors qu'on s'attendait à une explosion, on a des pénuries de recrutement, on a même les stations de sport d'hiver là, qui s'alarment. Est-ce qu'on est dans ce phénomène de grande démission et quel sera le visage du travail demain ?
Alors, il y a plusieurs questions qu'il faut poser. D'abord, pour faire le lien avec les questions sur l'inflation, on a des tensions. En effet, elles résultent de phénomènes qui ont vocation à être transitoires. La disruption de la chaîne de valeur, le fait que dans le domaine de l'énergie, le stockage et les stocks sont descendus très bas parce que personne n'anticipait vraiment que ça repartirait si vite. Donc, il y a une tension dont profitent les pays producteurs, mais qui n'a pas vocation à rester durable. Et je réserve ça pour la discussion sur l'énergie. Et puis, en effet, il y a des tensions qui résultent d'abord mécaniquement du fait que le marché du travail est plus tendu que prévu. Alors, je voudrais faire deux observations avant de décliner ça. La première, c'est que, comme François vient de le dire, on est revenu à un niveau de production qui est celui d'avant-crise, bientôt, maintenant, as we speak, peut-être, disons, vraiment pleinement à la fin de l'année. Mais on est revenu en avance sur le retour d'emploi d'avant-crise. Si vous faites le ratio des deux, ça veut dire que la productivité a baissé. C'est-à-dire le rapport entre combien je produis et combien j'embauche est en réalité plus bas ou un peu plus bas qu'avant la crise, alors que ça devrait être plus haut. Il y a une progression tendancielle de la productivité. C'est très difficile à dire à quel niveau elle se situe, mais enfin, ce qui est certain, c'est qu'elle est positive. Elle est entre 0,5, 1, 1,5, selon qu'on est pessimiste ou optimiste. Mais on est donc manifestement en retard sur cette tendance. C'est bien de revenir au niveau de production d'avant-crise, mais en fait, si on suppose que la croissance potentielle de la France est autour de 1,5%, par rapport à la tendance, on est 3% plus bas. Si je rajoute l'année prochaine avec 1,5%, en fait, on est 4,5% potentiellement plus bas qu'on aurait dû être. C'est d'ailleurs pour ça que l'année prochaine, à peu près tous les conjoncturistes anticipent une croissance qui restera forte à 4 et quelques pourcents. C'est vraiment le retour aux tendances antérieures. Par contre, quand on sort et qu'on va en 2023, les prévisions sont beaucoup plus pessimistes et nous amènent, y compris d'ailleurs dans la loi de finances, à des taux de croissance 1 et quelques pourcents, parce que c'est tout simplement la croissance tendancielle de la France. Donc, si... En fait, la question est très simple. Soit cette crise a généré potentiellement une révolution technique silencieuse qui fait qu'on va utiliser beaucoup plus que par le passé le télétravail, la télémédecine, on va utiliser beaucoup plus toutes ces choses dont on a fait l'expérimentation avec les Zoom et autres qui permettent de réduire les coûts de transport. Soit ça provoque ce qu'on appelle des gains de productivité, c'est-à-dire j'ai moins d'efforts à faire pour produire comme avant ou avec le même effort qu'avant, je peux produire davantage. Je suspends le débat sur le climat où ces questions de croissance vont être évidemment fracassées par tous les impératifs qui nous attendent, mais je continue ce raisonnement strictement économique. Soit il y a une reprise de productivité, soit il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, alors je serai un tout petit peu plus prudent sur le fait que peut-être qu'on va buter, comme dans les années 70, en même temps qu'on a un choc inflationniste, en fait, on va buter très vite, peut-être dès 2023, sur une productivité qui redeviendra très, très faible et qui donc du coup aura du mal à absorber les augmentations de salaire qui sont en train de se dessiner. Ça c'est pour la partie, si je puis dire, strictement économique de ma démonstration. Attendons de voir si un nouveau paradigme productif émerge de cette crise qui nous rendra, pour aller vite, plus efficients, y compris d'ailleurs dans l'usage de l'énergie. Maintenant, il y a une autre question et c'est le point de The Great Resignation. Je pense ça très au sérieux, c'est très important. Ce qui se passe aux États-Unis et qu'on observe un peu en France aussi, c'est qu'aux États-Unis, les gens, les travailleurs, ne veulent pas revenir travailler comme avant. Ils n'acceptent plus d'aller dans des conditions de précarité, de stress comme celles qu'ils connaissaient avant. On le voit aussi en France, avec beaucoup de goulets d'étranglement, de gens qui ne veulent pas retourner travailler dans les bars, hôtels, restaurants, dans les conditions de précarité sociale, de stress, de tension qui sont celles qu'elles connaissaient avant. La Banque de France est en avance, si je puis dire, puisque très tôt, vous avez mesuré, tiré la sonnette d'alarme sur le fait que, pratiquement, une entreprise sur deux aujourd'hui en France dit avoir des difficultés de recrutement. D'où viennent ces difficultés de recrutement ? Eh bien, je crois qu'elles viennent du fait qu'il y a quelque chose qu'on ne mesure pas avec ces statistiques sur la reprise économique, c'est que le rapport au travail, les questions existentielles ont été profondément troublées par cette crise économique. Donc, dans la session précédente, je rappelais ces statistiques. Quand on interroge les Français, il y a une enquête, Le Monde, Fondation Jean Jaurès et Ipsos, qui montre que le sentiment dominant chez les Français, ça n'est pas la joie de retrouver une croissance belle et envoûtante. Les principaux items qui sont cités spontanément par les Français, c'est inquiétude, incertitude, fatigue. C'est ça les sentiments dominants. Non, la joie et la bonne humeur venant très très loin parmi les citations qui sont faites. Et donc je crois qu'il y a quelque chose de très important à prendre au sérieux, qui est un peu masqué par les débats sur le pouvoir d'achat, même si évidemment ces débats sur le pouvoir d'achat sont très importants. Encore une fois, ce matin, avec Patrick Artus, on rappelait que quand l'inflation des prix de l'énergie est de 20% et que l'INSEE impute à l'inflation moyenne la part moyenne de consommation de l'énergie par les Français, la part c'est 7,5%, donc fois 20%, ça fait le chiffre qui contribue à la hausse de l'inflation, mais pour beaucoup de ménages pauvres, la part de l'énergie, c'est pas 7,5%, c'est 15%. Ça veut dire que l'inflation silencieuse que subissent les plus pauvres, les plus défavorisés, est beaucoup plus importante que ça. Donc tout ça, si vous mettez bout à bout, un choc existentiel qui ne passe pas, un choc inflationniste qui va être très inégalitaire en réalité compte tenu de sa source qui est celle de l'énergie. Je ne sous-estime pas, du coup, et j'appellerai plutôt tout le monde à prendre très au sérieux ce qui est en train de se passer sur le marché du travail, en allant au-delà de la seule statistique d'un retour de l'emploi salarié au niveau d'avant-crise, de regarder un peu dans le détail ce que ces difficultés de recrutement secteur par secteur signifient vraiment.
Alors, peut-être d'un mot pour poursuivre et ensuite interpeller aussi François Villeroy de Gallo sur cette question. Comment on fait quand on est un décideur économique pour jongler ou s'adapter à ce curseur qui évolue sur l'appétit d'aller au travail, sur une productivité qui n'évolue plus comme on a eu l'habitude de la voir évoluer. En termes de politique économique, on pourra parler de politique monétaire après.
Je pense d'abord qu'il faut comprendre la nature de ce phénomène. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de comprendre que cette aspiration au télétravail est peut-être une révolution silencieuse. Vous savez, pour reprendre un parallélisme qui a été fait par les économistes avant cette crise, dès que la pandémie s'est déclenchée, tous les économistes ont essayé de regarder des correspondances avec les épidémies du passé, à commencer par la grippe espagnole, et puis on est remonté plus loin dans l'histoire avec la grande peste, et tous ont conclu que les épidémies du passé étaient en réalité inflationnistes. Pour une raison simple et macabre, qui est que les épidémies du passé, par le nombre de morts qu'elles provoquaient, créaient des tensions sur le marché du travail qui finissaient par augmenter les salaires, la plus spectaculaire de toutes étant la grande peste du XIVe siècle, où 30% de la population européenne a été tuée par cette grande peste, produisant une explosion des salaires qui, en réalité, allait signer le crack à l'époque du régime féodal. Cette fois-ci, on a dit que ça va être très, très différent, parce qu'en fait, ce n'est pas des morts, c'est un empêchement d'aller travailler. C'est pour ça qu'on parlait de ce choc d'offres keynésiennes. c'est le chômage qui nous menace. Eh bien, curieusement, on est en train de vivre quelque chose qui ressemble aux épidémies du passé, non pas parce que les gens sont morts, mais parce que d'une certaine manière, ils se sont brûlés au fil de cette crise. Alors, pour revenir à votre question sur les entreprises, ben, tout va être une question, enfin, Laurent Berger était là avec nous ce matin, tout va être une question de dialogue social. Il y a des emplois qui ne pourront pas reprendre comme avant. Des emplois de grande précarité, de grande fragilité, où on enchaîne les métiers précaires, en fait, ça ne va sans doute pas reprendre. Le télétravail est en train de prendre une importance considérable. Ça veut dire une réorganisation quand même, dans une très large mesure, à la fois de la manière dont les bureaux eux-mêmes, les office space vont être repensés, mais la manière dont on va accorder de l'autonomie aux travailleurs. Donc on est peut-être en train de vivre, alors qu'on croyait qu'on allait revivre la crise de 2008-2009, on est peut-être en train de vivre un mai 68 silencieux, c'est-à-dire une économie qui repart en réalité très vite, plus vite que prévu, mais avec des questions existentielles très lourdes qui, si on ne les règle pas, pourraient produire ce qui s'est passé après mai 68, c'est-à-dire de grandes désillusions, de la stagflation, mot honni par les banquiers centraux, mais qui revient quand même nous habiter si on ne prend pas la mesure de ce moment de l'histoire où nous sommes, très inattendu, mais peut-être très emblématique de ce que seront les crises du 21e siècle.
Merci Daniel Cohen. Alors François Villeroy de Gallo, que peut faire un banquier central sur cette question du marché du travail? Et puis, j'en profite pour glisser un peu sur le thème suivant de la dette, parce que le temps passe. Sur la question de la dette, est-ce que, finalement, on n'a plus à avoir peur du mur de la dette et le quoi qu'il en coûte va perdurer? Peut-être d'abord banquier central et marché du travail.
Oui, enfin, je vais surtout dire ce que j'en pense, parce que le banquier central n'est pas directement en charge du marché du travail. Alors, je vais évidemment mettre l'accent sur les différences avec Daniel, parce que c'est plus drôle, et puis et j'ai quelques différences. D'abord, je ne suis pas d'accord sur le risque de stagflation. Il y a une poussée inflationniste, mais on est très très loin de la stagnation. On est à plus de 6% de croissance en France cette année, probablement autour de 4% l'an prochain. Donc c'est des rythmes de croissance comme on n'en a pas connu depuis 50 ans. Hein. Alors, la productivité, c'est très important. Là, on se retrouvera. Et il y a un mystère de la productivité aujourd'hui. Il me semble, Daniel, que le mystère est un peu moins fort si on regarde les heures travaillées, parce qu'il y a encore un certain nombre de salariés qui sont en chômage partiel. Et donc, il y a moins d'heures travaillées qu'avant, et rapporté à l'heure, du coup, la productivité évolue mieux. Mais ça va être une question très importante. Le point sur lequel je voudrais revenir, parce que ça, je trouve que c'est un débat passionnant, c'est cette histoire des difficultés de recrutement des entreprises. Alors, elles sont incontestables. Effectivement, on les mesure à la Banque de France. Je ne sais pas si vous connaissez le chiffre. Il y a 53% des entrepreneurs aujourd'hui qui nous disent avoir des difficultés de recrutement dans un pays qui a encore 8% de chômeurs. C'est un paradoxe socialement, économiquement inacceptable. À quoi c'est dû? C'est peut-être là qu'on va avoir une discussion. Donc Daniel Cohen dit que c'est le choc existentiel à l'américaine, quoi, ce mouvement de grande démission, etc. Peut-être. Là, moi, je vais mettre un point d'interrogation. Il y a une autre lecture de ce qui se passe aux États-Unis, qui est que les Américains sont en train de devenir plus européens. Ils veulent plus de protection, ils veulent des salaires minimaux, etc. Et je trouve ça très bien. Mais si c'est les Américains qui sont en train de devenir plus européens, ce mouvement va nous affecter, nous, moins. Je fais cette hypothèse. Je fais cette hypothèse d'autant plus que ces difficultés de recrutement, malheureusement, nous retrouvons le problème numéro un que nous avions avant la crise Covid. Le premier limitateur de vitesse de l'économie, le premier frein au développement des entreprises, c'était déjà les difficultés de recrutement. Et si on fait cette lecture-là, sur les remèdes, vous vous demandez ce que peut faire un décideur économique, ça renvoie au moins à trois choses auxquelles je crois profondément. C'est tout l'investissement dans la formation, l'apprentissage, l'éducation, parce qu'on a souvent un problème de compétences. On a une chance avec le public des GECO, c'est qu'en général, vous êtes des jeunes qualifiés qui n'auraient pas ce problème, mais la non-qualification est le premier problème des difficultés de recrutement. Il y a une deuxième chose, c'est de rendre le travail plus incitatif, plus attractif. Ça peut comporter des facteurs quali. Enfin, il y a des facteurs quanti quand même évidents. Il y a les augmentations de salaire dans certains secteurs, et il y a quand même une réforme de certaines distorsions de l'assurance chômage. Alors, vous voyez bien que ces deux remèdes que je viens de mentionner, on se les jette à la figure dans le débat politique. Il risque de rien se passer entre les deux, alors qu'il faudrait additionner ces deux remèdes. Puis une dernière chose, c'est le sous-emploi des jeunes et des seniors, qui est très très marqué en France, qui n'est pas totalement indépendant du débat sur la retraite, ce qui nous amènerait peut-être sur la dette publique. Mais pourquoi je dis tout ça? Parce qu'effectivement, il y a une crise sur le recrutement, elle est incontestable. Mais il y a deux lectures possibles. Il y a une lecture qui dit « c'est le Covid qui a changé le rapport au travail ». Il m'a semblé que c'était plutôt la tienne. Et moi, je suis tenté par une lecture un peu plus européenne et française, qui est « on sait bien pourquoi, malheureusement, l'offre de travail à la disposition des entreprises est insuffisante ». Il y a une forte demande de travail des entreprises, mais il n'y a pas en face de ça l'offre de travail qu'il faudrait.
Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous propose de poursuivre l'un ou l'autre sur la question de la dette. Je vais instiller les questions du public au fur et à mesure pour essayer d'en poser le plus possible. On a plusieurs questions sur est-ce qu'il n'est pas temps de faire un plan de relance coordonné, notamment pour la transition écologique, on pourra en parler. Est-ce que finalement il n'y a pas un plan de relance européen aussi auquel donner de l'ampleur? Où est-ce qu'on trouve les leviers d'une croissance durable? Est-ce que finalement le Covid n'a pas montré qu'on pouvait s'endetter sans limite?
Alors, sans limite, certainement pas, mais il a montré qu'on avait... en tout cas certainement en Europe, dans une très large mesure aux États-Unis aussi, mais moins, qu'en Europe, on disposait de ce qu'on pourrait appeler un excès d'épargne, très important, d'ailleurs qui se traduit par le fait que, quand on regarde la zone euro dans son ensemble, on a un excédent de nos comptes courants structurels. Un excédent du compte courant, ça veut dire qu'on dépense significativement moins qu'on ne produit, et c'est lié en grande partie à l'Allemagne, qui a un excédent délirant du compte courant, qui était à 8% avant crise, et qui fait peser une pression déflationniste sur l'Europe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un grand pays qui produit beaucoup plus qu'elle ne dépense, ça fait une pression déflationniste, et ça fait une pression à la baisse des taux d'intérêt réels. C'est la raison pour laquelle je pense que tout ce qu'on vient de dire avec François, il faut être très attentif, en effet, indépendamment du débat sur le Great Resignation qu'on continuera hors tribune, à être très attentif à différencier l'Europe et les États-Unis. La situation n'est pas du tout comparable en réalité. Alors, pour parler de la dette, puisque c'est un sujet qui fâche, mais qui me paraît très important, il faut qu'on s'entende sur ce que ça signifie que parler du poids de la dette. Et je crois qu'il faut être très attentif à ce qui va se passer en 2023, quand les procédures de déficit excessif vont repartir en Europe. On a jusqu'à la fin 2022 pour faire en gros ce qu'on veut, mais normalement, en 2023, on va revenir dans un cadre qui contient notamment le fait que, dans les traités tels qu'ils ont été signés, on doit revenir en moins de 20 ans à un ratio dette sur PIB de 60%. Il faut réduire d'un vingtième chaque année le niveau de dette par rapport à 60% pour revenir à ce niveau-là. Et là, je vois un risque considérable, même si ce niveau de 60 est remonté à 100 ou autre, je vois un risque considérable, au moins d'un immense malentendu sur ce débat de la dette. Donc je vais prendre 3 secondes pour essayer de l'exposer tel que je le vois, pour qu'au moins on ait les idées claires sur les éléments de discussion. La première chose qu'il faut toujours rappeler, je le fais au point où j'en suis là moi-même en quelque sorte, c'est que ce qui compte du point de vue des finances publiques, ce qui compte du point de vue de ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette elle-même, ça n'est pas le quantum de dette, c'est la charge des intérêts qu'on paye sur cette dette, la charge des intérêts courants et la charge des intérêts prévus, évidemment. Il faut une vision dynamique des choses. Si on regarde ce qui s'est passé depuis 2000, on est passé d'une dette sur PIB qui était à 60% et qui aujourd'hui est à 115, disons 120% pour faire beau. Bref, une dette qui en pourcentage du PIB a doublé, alors que la charge des intérêts est passée d'environ 3% du PIB à moins de 1,5% aujourd'hui, c'est-à-dire en fait, corrélativement à un doublement de la dette, on a eu une réduction de moitié de la charge des intérêts. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt se sont effondrés au cours de cette période. Ça, c'est la première chose très importante. Le niveau de dette en lui-même, conceptuellement, ne dit absolument rien du poids de la dette dans nos économies et des efforts qu'il faudrait faire éventuellement pour rendre cette dette soutenable. Les Japonais ont un ratio dette sur PIB de 250% du PIB. La trace budgétaire, c'est 0% fois 250%, c'est-à-dire zéro. Donc ça, c'est intellectuellement la première chose qu'il faut garder en tête. Quelles sont les anticipations que je fais sur les taux d'intérêt et sur les charges d'intérêt à venir, et certainement pas quel est le niveau dans l'absolu de dette qui est souhaitable. Le deuxième point, c'est que quand je dis que la dette représente en coût budgétaire 1,5% du PIB, en fait, je ne prends pas en compte le deuxième facteur qui est absolument essentiel, qui est l'inflation. Quand on a une dette qui représente 120% du PIB, il y a une taxe inflationniste qu'on ne calcule pas dans les budgets, mais qui est tout à fait essentielle, et qui réduit la dette du montant de l'inflation. Si cette inflation était à 1%, et on est plutôt à 2, mais restons sur une hypothèse très pessimiste sur l'évolution de l'inflation, ça veut dire que les 120 points de PIB sont en fait taxés à hauteur de 1% fois 1,2, c'est-à-dire 1,2%. La charge des intérêts de 1,5% du PIB, dans mon calcul, elle est en fait amputée de 1,2%, c'est-à-dire qu'elle ne représente que 0,3% de PIB. Si vous suivez tous mon raisonnement, l'idée simple est de dire qu'aujourd'hui, en France, la charge réelle de la dette est nulle. Elle ne pèse absolument pas dans la vraie comptabilité, celle qu'on devrait avoir des finances publiques. La question devient, qu'est-ce qui se passe dans l'avenir ? Est-ce qu'on peut extrapoler ce raisonnement ? Bien, si on a en tête que ce qui compte, ça n'est pas l'évolution des taux d'intérêt, mais l'évolution des taux d'intérêt corrigés par l'inflation, aucune des anticipations qui sont faites par les marchés ne prévoit à horizon de 10 ans que les taux d'intérêt qui seront pratiqués par la Banque Centrale Européenne ne dépassent les taux d'inflation qui sont anticipés eux-mêmes par les marchés. En fait, les anticipations des agents montrent une longue convergence sur 5 à 10 ans des taux d'intérêt nominaux vers les taux d'inflation. Ce qui veut dire qu'on est dans un monde qui durablement, sans doute, va être un monde de taux d'intérêt réels, nuls, voire négatifs. On peut se tromper, et à ce moment-là, il faudra agir. Mais s'inquiéter par anticipation d'une évolution très improbable aujourd'hui et prendre le risque, à partir de 2023, au nom d'une arithmétique fausse et en un certain sens absurde, de revenir à un ratio dette sur PIB de 60 ou de 100%, bref, de garder comme boussole le niveau de dette, je pense que ce serait une erreur intellectuelle, sans doute politique et économique, qui pourrait être très grave sur la sortie de crise.
Voilà une interpellation pour François Villeroy de Gallo. J'ajoute que certaines questions se demandent si, finalement, on ne pourrait pas annuler les dettes. Est-ce que c'est possible ? Qu'en pensez-vous ?
Alors ça, c'est une autre question. J'en ai un petit mot après. Je vais vous dire un petit secret. On se connaît assez bien avec Daniel Cohen, comme vous avez peut-être perçu. Et quand on a préparé avant, on s'est dit que ça, c'est le sujet sur lequel on ne serait pas d'accord. Bon. Donc je vais assumer le désaccord sur deux ou trois points que Daniel a évoqués. Cette question de la dette est très importante parce que c'est la question de votre génération. On vous laisse deux choses, qui sont deux problèmes, on n'en est pas particulièrement fier, c'est la planète et la dette. Je disais tout à l'heure que c'est deux questions qui se ressemblent parce qu'elles sont à long terme. Alors, les points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec Daniel en forçant un peu le trait, quand tu dis ce qui compte, ce n'est pas le niveau de la dette, c'est la charge d'intérêt. Et aujourd'hui, cette charge d'intérêt, c'est vrai, elle est très faible, donc on peut y aller. Enfin, tu as dit ça de façon plus simple, mais plus sophistiquée. C'est vrai qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très faibles. Moi, je ne sais pas ce qu'ils seront dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Ils peuvent très bien remonter sensiblement, y compris même au-delà de l'inflation. Et donc, parier que la charge de la dette restera durablement faible, c'est faire sur l'avenir, tirer une traite sur l'avenir, qui me paraît très irresponsable, parce que si les taux d'intérêt remontent, tout ce qu'il faudra pour payer la dette héritée du passé, c'est autant qu'on n'aura pas pour l'éducation, le changement climatique, etc. Deuxième chose, par rapport au pacte de stabilité, je ne vais pas me prononcer sur les règles futures qu'il faut, ça va être un débat franco-allemand horriblement compliqué. Mais par contre, je suis sûr qu'il faut des règles. Parce que notre génie national, malheureusement, il est tel que quand il n'y a pas un minimum de règles budgétaires, on a tendance à faire toujours plus de dettes. quand nous avions votre âge, c'était il y a très longtemps, mais vers 1980, le poids de la dette par rapport au PIB en France, c'était 20%, 6 fois moins qu'aujourd'hui. Et on peut tracer l'histoire. Hein. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il y a eu des bonnes raisons de faire des dépenses supplémentaires. C'est toujours plus facile de faire des dépenses et des baisses d'impôts que des économies ou des hausses d'impôts. Donc il faut des règles. Il faut sans doute les faire bouger hein, par rapport à Maastricht et au pacte de stabilité. Mais je ne crois pas que la France puisse avoir une attitude responsable de solidarité intergénérationnelle s'il n'y a pas de règles. Dernière chose, là on se retrouverait peut-être plus facilement, c'est que je trouve qu'il y a un débat qu'on n'a jamais, c'est à quoi on utilise la dette. Parce que si vous l'utilisez pour des dépenses de fonctionnement courant et vivre au-dessus de vos moyens, honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est vraiment transférer la charge à la génération suivante. Si c'est l'utiliser pour des investissements écologiques ou pour l'éducation ou pour des dépenses qui préparent l'avenir, oui. Ce débat Cali, malheureusement, on l'a très peu. Il est très difficile à conduire. Je le crois nécessaire. Je crois simplement qu'il ne faut pas que ce soit l'alibi de toujours transférer l'addition à la génération suivante. Or, malheureusement, c'est ça qui s'est passé. Sur l'annulation, d'un mot, malheureusement, ce n'est pas possible. Y compris pour la dette détenue par la Banque centrale, je vous le dis de façon très courte, c'est totalement incompatible avec le pacte de confiance qui a créé l'euro. Alors, on pourrait se dire un traité, ça se change. Je pense que les 18 autres États membres n'auraient aucune envie de le changer et les citoyens eux-mêmes se sentiraient un peu trahis. Si les citoyens ont confiance dans la monnaie, c'est parce qu'elle est gérée par des règles solides. Puis la deuxième chose, supposons, si vous me laissez 30 secondes, Marie, supposons qu'il n'y ait pas ce problème juridique et qu'on puisse dire, voilà, on va annuler les dettes de la France détenues par la Banque de France. Ce n'est pas la Banque centrale européenne qui les détient, hein, c'est la Banque de France. Et ça fait entre 600 et 700 milliards d'euros. On les annule, formidable. On s'est enrichi tous de 600 à 700 milliards d'euros parce qu'on a autant de dettes en moins. Simplement, dans la seconde suivante, malheureusement, moi je suis obligé, je tiens les comptes de la Banque de France, de dire ben, il y a un trou dans les comptes de la Banque de France. On vient de perdre dans les comptes de la Banque de France 700 milliards d'euros. Et comme la Banque de France appartient à tous les Français, parce qu'elle est publique, nous venons de reperdre ensemble les 700 milliards avec ce trou que nous avions gagné la seconde précédente. Donc ça ne nous rapporte rien, mais par contre ça a diminué beaucoup la confiance dans la monnaie. Donc il n'y a pas de solution facile sur la dette, il faut du temps, il faut de la croissance, il faut une meilleure efficacité des dépenses publiques. Entre nous, il y a quand même de la marge. Je vous parle à la tête d'une institution publique qui s'est réformée et qui a amélioré son efficacité. Voilà, mais je n'ai pas de miracle dans la poche.
Alors on entend bien votre appel à se donner des règles et à les respecter, pour notamment ne pas faire peser le fardeau sur les générations futures. Vous avez mentionné le climat et les défis que cela soulève pour cette même génération. Est-ce que là, on n'a pas des politiques économiques, des leviers monétaires malgré tout à faire jouer, plutôt que de mourir guéri, ce qu'on disait déjà au moment de la Grèce ? Alors l'un ou l'autre, ce sera presque le mot de la fin, essayer d'être un peu... Le temps passe désespérément vite.
Je vais laisser le mot de la fin à François, mais juste pour dire très brièvement, je suis tout à fait d'accord pour mettre la dette écologique et la dette tout court au même niveau, peut-être, enfin au même niveau, dans le même type de comptabilité, en sachant que c'est la dette écologique, évidemment, qui, elle, est irréversible, qui est la plus grave et de très loin. Mais je vais proposer à François un pacte très simple. Le premier, intellectuel, bien entendu, c'est qu'on s'entende pour défendre l'idée que dans le calcul du déficit, il faut corriger la présentation analytique du déficit, ne pas dire on a 3%, on veut aller à zéro, mais s'entendre sur le fait que ces 3%, il y en a 1,2 dans mon exemple, en trop, et qu'en réalité, le déficit est plus petit qu'il n'est, et que cet objectif de 3 doit prendre en compte le fait que la charge des intérêts est nominalement élevée, mais en termes réels faible. Ça, c'est la première proposition. La deuxième, pour mettre... entre guillemets, sur le même pied, la dette écologique et la dette tout court, moi je proposerais que dans le même calcul du déficit, et on suit tout à fait d'accord une fois qu'on aura fait cet exercice, pour converger sur des règles. comme par exemple le fait que les dépenses récurrentes doivent être payées par des impôts et pas par la dette, ça me paraît tout à fait raisonnable. Mais qu'on enlève aussi la définition du déficit, et là on parle des négociations à venir, donc c'est des propositions pour les négociations très importantes qui vont avoir lieu l'année prochaine au niveau européen. On retire les investissements verts qui ont été faits, puisque d'une certaine manière, c'est une façon de réduire notre dette écologique. Ce matin, Patrick Artus nous rappelait que la plupart des estimations, dont celle d'ailleurs de notre ami commun Jean Pisani-Ferry, mettent à 3 ou 4% de PIB le coût des investissements verts qu'il faudra faire pour annuler notre dette climatique par rapport aux générations plus tard. Je ne demande pas que les 3 ou 4% dans leur totalité soient retirés du déficit, mais qu'on ait les idées claires sur le pilotage qu'on veut de notre politique budgétaire. Retirer dans la charge des intérêts la part qui n'en est pas, qui n'est que de la fumée et qui doit prendre en compte l'inflation quelle qu'elle sera à l'avenir. Et si l'objectif est de 2%, inscrivons-le dans notre façon de calculer les taux d'intérêt réels. Et faisons la part dans les déficits entre les dépenses récurrentes, courantes et les dépenses qui vont nous permettre d'annuler, si c'est possible, notre dette climatique. Si on partait sur ces deux piliers-là, je pense qu'il serait très facile de s'entendre ensuite sur des règles simples comme celle qui a été évoquée par François, à savoir qu'il faut que les impôts couvrent les dépenses ou que les dépenses s'alignent sur le niveau des impôts souhaitables. Évidemment, on prendra chacun la part de l'équation qui vous sourit.
François Villeroy-de-Gallo, vous allez avoir le mot de la fin. On est en pleine COP26, hein, je le rappelle.
Oui, oui, je vais surtout parler du climat. Malheureusement, je ne vais pas signer tout de suite sur la proposition de pacte de Daniel, y compris pour une raison presque historique pour la France. Je suis extrêmement prudent face à toutes les propositions qui nous autorisent à faire des déficits encore plus grands et des dépenses supplémentaires. Parce que regardez ce qui s'est passé avec toutes ces règles soi-disant trop strictes. Je pense que tout le monde en est conscient ici. Nous avons en France le niveau de dépenses publiques le plus élevé du monde. Pas d'Europe, du monde. De tous les grands pays développés, c'est la France qui a le plus de dépenses publiques. Je crois au modèle social européen. Mais pourquoi, en France, ça nous coûte 10 points de PIB de plus que chez nos voisins européens? Nous avons une dette publique qui n'a cessé de croître, y compris quand on était dans des années fastes. Et ce n'était pas pour faire du climat. Donc on a quand même un génie national qui ne nous pousse pas à une politique budgétaire très solidaire entre les générations.
Est-ce que là, on n'est pas en état d'urgence climatique? En état d'urgence climatique?
Alors, je viens... Oui, mais avant, il y a eu l'état d'urgence de l'éducation, de la défense, du choc pétrolier. Enfin, je vous en sers des états d'urgence. Par contre, je crois à fond à la mobilisation climatique. On va faire tout ce qu'on peut, et on a commencé en tant que superviseur des banques et des assurances. Et nous avons, avec Christine Lagarde, fait une grande nouveauté de la Banque Centrale Européenne, qui est vraiment de verdir la politique monétaire. Je ne rentre pas dans les détails, mais on a un plan d'action très précis, totalement pionnier, d'ici 2024. Je suis simplement obligé de terminer par un point sur lequel je pense on se retrouvera, qui est qu'il y a un élément central si on veut réussir la transition climatique, c'est le prix du carbone. Sous une forme ou sous une autre, il faut arriver à facturer le coût de la pollution aux émetteurs et aux utilisateurs de carbone. Je ne sais pas si vous avez regardé, Julia Sesteri de la Banque de France est là et a présenté, je crois, ce matin les résultats d'une enquête d'opinion qu'on a faite. Il se trouve qu'elle est sur la France, mais malheureusement, ça serait encore pire aux États-Unis. Nos concitoyens, je peux le comprendre, quand il faut lutter contre le changement climatique, disent qu'il faudrait d'abord des réglementations, ensuite des subventions aux véhicules propres, et enfin, tout à la fin, un prix du carbone. Malheureusement, ça ne va pas faire le potage, si vous me permettez l'expression. S'il n'y a pas de prix du carbone, sous forme de taxes, sous forme de permis qu'il faut acheter, etc., nous n'arriverons pas à internaliser dans toutes les décisions d'investissement et de consommation la lutte contre le changement climatique. Donc je vous garantis, et croyez que j'y mets un maximum de conviction personnelle avec les équipes de la Banque de France, que nous, on va tout faire dans le domaine financier pour accélérer la lutte contre le changement climatique, mais s'il n'y a pas de prix du carbone, ça ne suffira pas. Et là, j'ai une vraie alerte.
Merci François Villeroy-de-Gallo. Notre table ronde se termine sur cet appel à un prix du carbone. On a semé un peu des jalons pour essayer de s'y repérer, d'y voir un peu plus clair sur les défis qui nous attendent et qui attendent les décideurs. Merci à chacun, merci au public. À bientôt.
Merci.